Je suis à Cancun. À côté de moi, Jean-Paul Pascali. Son métier, c'est tuilier. Il fabrique des tuiles. Comment on fabrique des tuiles? On va pas trop entrer dans les détails quand même, mais explique-nous, Jean-Paul Pascali, comment ça se fait pour qu'on puisse comprendre, pour que les auditeurs puissent comprendre un peu comment ça se passe.
La fabrication des tuiles, disons qu'il y a trois grandes étapes. Le façonnage, le séchage et la cuisson. Bon, pour façonner la tuile, on prend de la terre, de l'argile, on la broie, on la mouille, on la pétrit, bon, comme la pâte à pain, et ensuite on la façonne, c'est-à-dire dans une machine qui nous sort une tuile. Ensuite, on va sécher ce produit, bon, il est gorgé d'eau, et on enlève environ 1 kg d'eau pour 2 kg de terre.
Oui, la terre, elle est prise sur place, bien sûr.
Oui, la plupart des tuileries possèdent leur carrière qui est, pour réduire les frais de transport, la carrière est à côté. Bon, dans le sud-ouest, le sous-sol est composé en majeure partie d'argile, facilement exploitable.
Donc, si les tuileries se sont fermées, c'est pas à cause du manque de terre, hein.
La plupart du temps, non. Du moins pas dans notre coin. Bon, les tuileries qui avaient été petites et nécessitaient de petites carrières très facilement exploitables.
Le séchage, ça se fait pas naturellement, c'est une sorte de four aussi.
Bon, traditionnellement, séchage, enfin, autrefois au soleil, maintenant convection forcée, comme le pruneau, exactement pareil, on monte à 90, 100 degrés dans un tunnel, dans une étuve. Ensuite, quand le produit est sec, on passe à la cuisson. Quel que soit le combustible utilisé, on va monter à la même température, quoi, entre 900 et 1100 degrés suivant les terres. Bon, cuisson qui peut être continue ou discontinue suivant les usines. Bon, moi, je cuis en continu. Bon, d'autres tuileries et les anciennes tuileries cuisaient en discontinu. Bon, moi, je suis au fioul, les autres étaient au bois, charbon, sciure, ce qu'on veut, tous les combustibles sont bons.
Et l'usage du fioul à l'heure actuelle, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus intéressant pour une unité comme la tienne.
Mais les énergies, les coûts d'énergie se modifient actuellement. Bon, le bois serait plus économique financièrement. Point de vue calories, la calorie est moins chère. Bon, il y a le problème de la main-d'œuvre et puis du continu. Bon, le fioul, malgré tout qu'on emploie, c'est du fioul lourd. Donc, par rapport au fioul domestique, il est 30% moins cher encore. Le moins cher actuellement, c'est le gaz. Malheureusement, on n'a pas le gaz naturel à Cancun et dans la région. Hein.
Il n'y a pas de gisement en vue non plus.
En vue, non, sûrement pas. Hein. Bon, repasser au bois, ça suppose d'autres investissements et des fours conçus pour le bois. Le charbon, par contre, peut présenter aussi un avenir en ce moment. Hein. Et on a beaucoup d'installations qui repassent au charbon, mais au charbon moderne, c'est-à-dire pulvérulent, transport pneumatique et tout.
D'accord. Charbon qui vient d'Angleterre, non?
Charbon qui vient d'où on veut, ça, j'en sais rien. Et le problème du charbon, de la source du charbon, non, c'est du coût
C'est autre
énergétique.
chose.
Oui, voilà. Hein.
Bon, combien vous produisez essentiellement presque exclusivement des tuiles, je crois.
Oui.
Vous pourriez aussi faire des briques, du carrelage, un peu de tout.
Voilà, le principe de fabrication, quel que soit le produit, est le même. Bon, ce qui peut changer, c'est la matière première, suivant le matériau que l'on veut faire. Bon, si c'est de la brique, on prendra une terre un peu plus riche en sable, en silice. Si c'est du carreau bon, de la tuile, on prend des argiles un peu plus pures pour la résistance au gel. On peut faire tous les produits. Bon, nous, on s'est spécialisé sur la tuile parce qu'on a une terre à tuile. Et de là, la spécialisation. Bon, et les machines sont propres aux produits que l'on veut fabriquer, bien que les étapes soient les mêmes. Par ça, on peut pratiquement fabriquer tous les produits que l'on veut. Bon, le prix de production, enfin la production, disons qu'on a actuellement, c'est une dizaine de tonnes par jour. Bon, pour donner un ordre de grandeur, une usine moderne et une grosse usine va produire entre 500 et 1000 tonnes par jour. Une usine autrefois, une tonne par jour.
À
Voilà.
l'heure actuelle, combien, au niveau de la France entière, combien il y aurait d'usines à peu près de ces grosses qui produisent 500 000 tonnes au jour?
Bon, dans le sud-ouest, il y a deux grands groupes à plus de 2000 tonnes par jour et trois ou quatre petits groupes, enfin entre 500 et 1000 tonnes par jour.
Et le reste, c'est des petites.
Après le reste, bon, toute la catégorie autour des 100 tonnes par jour a pratiquement disparu, entre 100 et 500, parce que ils étaient surtout dans des matériaux tels que la brique, qui nécessitent une grosse automatisation pour être rentable, donc ils ont disparu, sauf quelques-uns. Ensuite, dans les petits, bon, eh bien, je ne les connais pas tous, bon, dans le coin, bon, il y a une tuilerie à Montbahut, une autre à Condat, pour côté de Fumel.
On peut citer leur nom, nous en reparlerons dans des émissions prochaines, je pense. Alors,
Voilà, Montfaugeron à Montbahut et Desguièmes à Fumel. Donc. Ensuite, il y en a deux ou trois autres petites dans le Lot-et-Garonne et c'est tout.
vers Puy-Miquelon et Gontaut, je crois.
Voilà, Puy-Miquelon, Glontoutot et Mézin peut-être. Bon. Pour situer un ordre de grandeur, au début, il y a une quinzaine d'années, on devait être une cinquantaine maximum, enfin, à peu près. Hein.
Dans le Lot-et-Garonne, alors.
Dans le Lot-et-Garonne, oui.
Maintenant, 5 ou 6.
Maintenant, 5 ou 6, on était 10 encore l'an dernier. Hein. Il y en a 4 qui ont fermé.
Dans le coût de ce qui est fabriqué ici à la tuilerie de Cancon, quel est le pourcentage des différents postes de coût, des différentes rubriques? Je n'emploie pas le terme qu'il faut.
Bon, la rubrique principale, c'est l'énergie. Bon, l'énergie principale, c'est-à-dire que c'est celle qui croît le plus vite actuellement, bon, elle représentait environ 30 à 40% du prix de revient. Ensuite, il y a la main-d'œuvre. Bon, la main-d'œuvre, personnellement, je l'ai légèrement diminué le poste main-d'œuvre parce que j'ai automatisé, mais disons que c'est autour aussi des 30%. Les autres charges, bon, investissement, charges indirectes, entreprises, bénéfices, représentant le reste, soit 30%. Il faut compter un tiers de chaque, quoi.
Là, au point de vue main-d'œuvre, vous avez. Tu as combien d'ouvriers ici?
Alors, maintenant, trois ouvriers à temps plein. De temps en temps, un saisonnier, bon, on verra suivant la demande. Je fais la carrière, bon, soit je prends un entrepreneur, soit c'est moi. Disons qu'on peut tourner avec trois ouvriers en ce moment.
La commercialisation, comment ça se passe et est-ce que ça marche pour le moment ou est-ce que c'est on ressent la crise comme dans notre secteur de l'économie?
Commercialisation, bon, j'avais jusqu'à présent un potentiel de clients suffisant pour ma production. Donc, je me suis jamais bien posé le problème de la commercialisation, c'est-à-dire aller vers le client. Si on veut augmenter la production, il faut promouvoir le produit, aller voir les clients, chercher surtout de nouveaux clients. Bon, en essayant de garder une production constante, on s'aperçoit que bon, la clientèle qu'on avait est presque suffisante. Bon, le marché a diminué en France, localement aussi. Bon, notre production, on a fait suivre le marché. Elle a diminué, donc notre clientèle suffit. Pour pouvoir progresser en production, en tonnage, il faudrait chercher une nouvelle clientèle. Alors à ce moment-là, on se heurte à la concurrence des grosses boîtes. Et malheureusement, depuis quelque temps, le petit ne peut pas lutter, ne peut pas lutter. Par rapport aux grosses boîtes, parce qu'on n'a pas les mêmes prix de l'énergie en particulier. Plus on est gros consommateur d'énergie, moins cher elle est. Et donc, comme on est des gros consommateurs, on a des prix de revient plus importants que les grosses boîtes qui, eux, sont encore plus gros.
D'accord, ça risque d'être assez inquiétant pour l'avenir, ça. Enfin, nous en reparlerons tout à l'heure. La commercialisation couvre une zone très réduite autour de Cancun, dans le département, ou alors ça va plus loin, ou.
Comme on dit, nul n'est prophète à son pays. Et donc, il vaut mieux que les produits voyagent pour être vendus. Alors, on va plutôt en dehors du Lot-et-Garonne que dans le Lot-et-Garonne. Non, mais on va. Les zones de vente se sont tournent. Bon, il y a 10 ans, c'était sur Agen. Maintenant, c'est plutôt sur Miramont, Marmande, Tonnes. Pourquoi? Bon, pourquoi? Parce que les concurrents, les grosses boîtes se sont appropriés des marchés et que la clientèle est changeante.
C'est un produit de qualité pourtant,
Ben,
ici.
ouais, apparemment, c'est un produit de qualité. Disons qu'il est connu pour ça, je pense. Mais la commercialisation, il y a 10 ans, elle se faisait sur la qualité. Maintenant, elle se fait sur le prix. On cherche d'abord le prix et la qualité, on la regarde après. Surtout qu'on n'est pas maître d'œuvre la plupart du temps dans son toit. Donc, bon, l'artisan qui va traiter, bon, à qualité égale ou pas toujours égale, bon, ça dépend des produits, mais enfin, on va traiter au meilleur marché. Hein.
c'est quelques années après qu'on se rendra compte que peut-être ça a été une erreur. Enfin.
Oui, il y a ce problème-là. Mais enfin, il faut dire que pour lutter sur le marché actuellement, il faut être le moins cher. La qualité importe peu.
Tu nous disais, Jean-Paul Pascaly, que le petit ne pouvait pas lutter. Est-ce que ça veut dire que dans quelques mois, quelques années, il va être obligé de plier boutique, ou est-ce qu'il y a quand même la possibilité de vivre à l'heure actuelle, dans les conditions économiques actuelles, de ce travail et d'envisager que ça continue assez longtemps?
Bon, puisqu'on disait que la qualité importait peu sur le marché, il faut produire à meilleur prix. Alors pour produire à meilleur prix, bon, on a vu tout à l'heure les trois postes qu'il y avait dans le prix du produit. Il faut donc réussir à dominer ces postes. Le gros va jouer sur la main-d'œuvre en automatisant. Bon, pour le petit, c'est assez difficile, les machines étant bon, très coûteuses. Donc on peut très difficilement jouer sur la main-d'œuvre. Alors on a l'énergie. L'énergie, ben pour le petit, il y a la solution actuelle de passer au bois. Le bois, bon, c'est à la mode, mais malgré tout, c'est très bon marché pour le poste énergie. Cela suppose bon, un équipement spécifique au bois, des fours prévus pour le bois. Les fours qui ont été faits il y a 20 ans étaient prévus pour le fioul, très difficile à remettre au bois. Donc il faut repasser soit à des fours qui ont 50 ans, soit à des fours modernes conçus pour le bois. Là aussi, c'est très lourd comme investissement. Bon, les autres énergies, bon, moi je suis en train d'étudier le projet électricité, parce que le programme nucléaire français, bien, on en a parlé, on en parlera encore. Il faut les consommateurs d'énergie pour le rentabiliser. Alors, l'EDF fait peut-être des faveurs à ceux qui voudront en consommer. Je ne sais pas, là encore, je n'ai pas la réponse. Le fioul, ben, on ne domine pas le marché, bon, il monte. Et si on peut diminuer la consommation énergétique en faisant de nouveaux appareillages, bon, malgré tout, on a un minimum, un seuil qu'on ne pourra pas dépasser. Et par rapport au gros, on aura toujours une énergie plus chère parce qu'on n'en consomme pas assez. Donc un prix de revient au moins au niveau énergie, trop cher pour être concurrentiel. Alors le petit, pour la commercialisation, aura le problème du prix de revient. Et pour se battre en ce moment, il faut produire peu et bon marché. Et non pas beaucoup et bon marché, mais c'est peu et bon marché. Comme ça, on n'a pas de problème pour vendre. Si on produit peu et bon marché, on a encore moins de problèmes.
C'est possible.
C'est sûrement la solution économique en ce moment. Il faut plus chercher à produire beaucoup, mais peu. Alors, c'est sûr qu'on va avoir des problèmes pour remplir l'escarcelle à un moment donné. Mais avec certaines installations qui sont amorties ou en voie d'être amorties, on peut arriver à diminuer la production tout en augmentant le bénéfice.
Ce serait le.
Ben, c'est la panacée, oui, le rêve, mais ça doit être possible dans certains cas.
Et l'organisation du travail, est-ce qu'il n'y a pas des choses là qui peuvent évoluer? Parce que finalement, bon, le four que tu utilises travaille en continu, mais c'est pas forcément intéressant qu'il travaille continuellement toute l'année.
Oui, le problème du travail continu, bon, c'est l'esclavage de la grange pour l'agriculteur. Mais c'était la solution intéressante il y a 25 ans ou il y a 20 ans. Maintenant, pour les grosses boîtes, c'est toujours la solution parce qu'on a un potentiel ouvrier suffisant pour faire les tours de garde. Par contre, pour nous, ça devient moins intéressant. D'autre part, le discontinu présenterait des avantages de souplesse, c'est-à-dire s'adapter à d'autres sortes de produits que ne présente pas le four continu. Alors, il se peut que pour les petits, le discontinu redevienne une solution. Il y a 4 ou 5 ans que certains ont commencé, ont tracé la voie. Les résultats sont pas toujours intéressants au niveau énergie, mettons. Alors, il faut des matériaux modernes qui sont sur le marché, mais très coûteux, pour que le passage au discontinu avec des coûts de production inférieurs soit intéressant. Le discontinu permet par contre le bois. Donc ce qu'on perd d'un côté, on peut le récupérer d'un autre. Mais l'aménagement du temps de travail, bon, avec le continu, on peut peut-être travailler plus longtemps par semaine et moins de semaines par an. Ça peut être une autre solution qui conduirait globalement à travailler moins.
C'est envisageable de travailler 8 mois, de se reposer 4 mois ou...
Bon, c'est envisageable, ça s'est fait autrefois, au moins dans cette profession. Le tuilier traditionnel faisait les tuiles l'été et le bois pour les cuire à l'hiver. Bon, eh bien, on va revenir pareil comme autrefois, quoi. Travailler l'été et se reposer l'hiver, ça pourrait être bon.
D'accord, je pense que dans une prochaine émission, nous aborderons la tuilerie traditionnelle avec un invité d'une autre génération. Et Jean-Paul Pascaly, merci pour cette contribution.
Mais de rien, et je serais très content d'en reparler même avec une personne plus ancienne que moi dans le métier.
Oui, il faudra organiser ça dans les studios un jour. Et de toute façon, je crois que tu seras l'invité aussi de Jean-Yves Levaux sur Radio Quatre Cantons dans quelques semaines.
Oui, on doit reparler des problèmes de la carrière et des tuiles.